Chapitre 22. Le lendemain matin, elle ne descendit au bureau que lorsqu'elle eut vu Paulin partir pour aller surveiller aux environs les travaux des maisons en construction. Comment aurait-elle osé paraître devant lui? Qu'eût-il pensé s'il eût vu le visage convulsé, les yeux noyés, les lèvres crispées, la respiration haletante et désordonnée? Il eût voulu savoir, il se serait arrangé pour rester seul avec elle et pour l'interroger. Elle serait morte de honte. D'ailleurs, qu'eût-elle dit? Que s'était-il donc passé? Elle n'en avait pas conscience. Ce qui lui était resté de cette scène terrible, c'était une sensation confuse d'horreur et de douleur, un mélange de craintes et de doutes dans lesquels son ignorance et son innocence se perdaient. Qu'elle avouât l'outrage dont elle avait été victime et il fallait quitter cette maison, se séparer de Paulin. C'était cette pensée qui, dans cette affreuse nuit, l'avait retenue lorsque, échappé aux bras qui l'enchaînaient, son premier mouvement de délivrance avait été de s'enfuir. La fuite, c'était l'aveu. Et quel aveu pouvait-elle faire? Était-elle vraiment indigne de lui? Elle n'en savait rien. C'était sa faute si cet homme avait pu s'introduire dans sa chambre, celle de sa folle confiance, de son imprudence. Mais ce qui était arrivé cette nuit ne se répéterait jamais. Maintenant, elle saurait se défendre et à l'avance se mettre à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, elle était dans un tel désarroi, dans un tel trouble, si profondément bouleversée, qu'elle se sentait incapable de prendre une résolution raisonnable. Ce qu'elle ferait en ce moment serait fou, puisqu'elle était folle. Quand elle aurait retrouvé un peu de calme, elle déciderait ce qu'elle devrait faire. En descendant au bureau pour prendre sa besogne de tous les jours, elle vit au premier mot que Victor lui adressa qu'elle avait été prudente, ne n'osait pas affronter le regard de Paulin. « Est-ce que vous êtes malade, mademoiselle ?» Elle détourna la tête et balbutia quelques mots inintelligibles. « Je vous demande ça, continua Victor, parce que vous, qui êtes le modèle de l'exactitude, vous êtes descendue en retard ce matin. Et puis, vous êtes toute pâle. » Elle ne répondit rien. « Vous n'aurez pas dormi. C'est la tempête. Quel vent! Ainsi, moi qui vous parle ?» Et il raconta une histoire personnelle complètement insignifiante dont Marichette n'entendit pas un mot. Mais, au moins, pendant qu'il parlait, elle ne pouvait pas penser, et pour elle, c'était du soulagement, un repos, de ne pas toujours tourner et retourner dans sa tête vacillante la même idée. Quand l'heure de préparer le déjeuner arriva, elle passa dans la cuisine, et là, Benjamin lui adressa la même observation que Victor. « On voit que vous avez mal dormi, mademoiselle Marichette. Franchement, il y avait de quoi. Quel coup de vent! Ce n'est pas le jour d'acheter du poisson. Heureusement, le voilà bien calmé. » Ainsi, tout le monde lisait sur son visage les traces de la lutte de cette nuit, de ses larmes, de ses angoisses et de sa honte. Il fallait donc que Paulin ne la vît pas, car lui ne se contenterait pas, comme ses indifférents, de l'explication de la tempête et du coup de vent. Quand Benjamin eut achevé ce qu'elle lui avait donné à faire, il s'en alla et elle resta seule, attendant. Mais elle ne sentait plus dans son cœur les craintes vagues qui tant de fois l'avaient agitée lorsqu'elle pensait à son oncle. Au lieu de la peur, c'était une résolution farouche qui la soutenait, un sentiment de haine, de dégoût, de mépris. À son heure habituelle, il arriva et s'assit à sa place comme les autres jours. Alors, elle apporta sur la table le plat de saucisses et de choux qu'elle avait préparé. « J'espère, dit-il en la regardant avec son sourire, que tu es plus calme ce matin. » Et il lui tendit la main. Elle allongea le bras sur la table et prit un grand coutelas de cuisine fraîchement aiguisé qui servait à découper. « Monsieur, dit-elle d'une voix rauque, si vous me touchez, je m'enfonce ce couteau dans la gorge. » Il se mit à rire. « Allons, je te croyais plus fine que ça. » Ce fut tout. Tandis qu'elle rentrait dans la cuisine, il se servit tranquillement une saucisse avec un tas de choux, et elle l'entendit broyer avec sa forte mâchoire la croûte de son pain brillé. Après le déjeuner, elle ne retourna point au bureau comme d'habitude, mais elle monta à sa chambre. Il ne fallait pas que Paulin la trouvât au travail. Cachée dans l'angle de la fenêtre, elle le suivit des yeux lorsqu'il sortit, et deux fois, Elle le vit lever la tête vers la chambre. Comme il avait l'air inquiet et malheureux. Alors, tandis qu'il s'éloignait, elle eut une crise de larmes et de désespérance.
« Oh, maman !» s'écria-t-elle.
En est-ce donc fait de son amour et de son bonheur? Ne pourrait-il plus l'aimer? Ne pourrait-elle plus être sa femme? Comment ne se serait-elle pas abandonnée? Était-il situation plus misérable que la sienne? Tant d'espérance pour aboutir à cette chute effroyable? Alors, le cri que Divine avait poussé à cette même place lui revint, et elle le répéta avec la même désolation.
« Qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu ? »
Quel crime avait-elle commis ? Quelle faute devait-elle expier ? Ce n'était ni une faute ni un crime d'aimer Paulin. Elle avait entendu dire que le bonheur se paie tôt ou tard et qu'il y a une justice qui tient la bascule des choses humaines, abaissant les heureux, relevant les malheureux. Où était-il le bonheur qu'elle devait payer ? Les tranquilles années de son enfance méritaient-elles un enchaînement de coups aussi impitoyables? Son père qu'elle perdait, puis sa mère, maintenant son amant, son mari. Pourquoi les coups tombaient-ils ainsi sur elle et toujours sur elle? Il n'y avait pas de réponse à ce pourquoi, comme il n'y avait pas de consolation à ses plaintes, c'était ainsi. Ce fut seulement quand approcha l'heure du dîner qu'elle descendit à la cuisine. Paulin, bien certainement, n'oserait pas venir la chercher là. S'il n'y vint pas franchement, au moins tourna-t-il aux environs, sinon pour lui parler, en tout cas pour l'apercevoir. À un certain moment, elle le vit, par sa porte, passer dans la cour, la tête tournée vers la cuisine. Justement, elle était seule. Elle ne put pas résister à l'élan qui la soulevait. À la distance où il se trouvait, il ne pouvait pas remarquer si elle avait les yeux noyés de larmes et le visage convulsé. Elle courut à la porte et, appuyant ses deux mains sur ses lèvres, elle lui envoya un baiser, le plus ardent, le plus passionné qu'elle lui eût jamais donné.
« Je t'aime ! Je t'aime !»
Il fit deux pas pour venir à elle, mais d'un geste suppliant, elle l'arrêta.
« Pas aujourd'hui, demain !»
Il eut un court moment d'hésitation, puis il continua son chemin. Il l'avait vue, elle lui avait envoyé un baiser dans lequel elle avait mis son âme, qu'importait le reste. Il avait la foi. Le lendemain, elle lui expliquerait ce qu'il ne comprenait pas. Quelques heures ne sont rien pour qui est sûr de l'avenir, et il était sûr de l'avenir puisqu'il s'aimait. Toutes les exigences, toutes les duretés, toutes les méchancetés de Belloc ne pouvaient rien contre leur amour qui planait à des hauteurs où les misères de la terre ne l'atteindraient jamais. À l'heure du dîner, Belloc entra dans la salle à manger et aussitôt elle apporta la soupe. Mais comme le matin, au lieu de prendre place à table, elle revint dans la cuisine. Il ne fit pas d'observation. Quand il eut fini de dîner, il s'en alla sans rien dire. Avec l'aide de Benjamin, elle mit tout en ordre dans la maison. Puis elle monta à sa chambre en portant le coutelas de la cuisine. Ce n'était cependant pas autant en lui qu'en la solidité de la porte de sa chambre qu'elle mettait sa confiance pour se défendre. Cette porte en chêne avait été faite avec le soin spécial d'un entrepreneur qui travaille pour lui et bien fermée à clé, avec la clé dans la serrure, il n'y avait pas à craindre qu'on l'ouvrît ou qu'on l'enfonçât. Si elle avait été coupable d'imprudence, elle était décidée maintenant à ne négliger aucune précaution. Quelque bien défendue qu'elle se crût par la solidité de la porte et de la serrure, elle ne voulut cependant pas se coucher avant d'avoir entendu son cousin rentrer et, sa lumière éteinte, elle resta sur une chaise devant sa fenêtre, attendant. La pluie avait cessé, mais de temps en temps passaient encore des rafales qui secouaient les vitres. Les heures s'écoulèrent d'autant plus longues pour Marichette que ses pensées étaient plus tristes et plus écrasantes. Elle s'imaginait que lorsqu'il serait rentré, elle serait plus tranquille, et c'était avec impatience qu'elle écoutait l'horloge de la ville et celle de l'église sonner les heures dans le silence de la ville déjà endormie. Ne rentrerait-il donc point ? N'était-il pas étrange, vraiment, qu'elle en fût venue à désirer son retour ? C'est que ce retour était pour elle la tranquillité, la sécurité pour quelques heures. si elle ne s'endormait point sous le poids de la fatigue, elle pourrait réfléchir plus raisonnablement que dans l'impatience fiévreuse qui l'agitait. Enfin, vers minuit, elle entendit un bruit de pas dans l'escalier. C'était lui. Son cœur s'arrêta de battre et elle sentit qu'une sueur glacée lui inondait les mains. Il approchait dans le corridor. Son pas se ralentit et s'arrêta. Deux coups furent frappés à la porte. Elle ne répondit point et retint sa respiration haletante. La porte fut poussée assez fortement, mais elle ne céda point. Il y eut un moment de silence, puis les pas s'éloignèrent. Elle était sauvée.